Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
Dans cette émission, je suis avec Agnès Thévenin. Agnès Thévenin écrit 3 livres merveilleux, dont le dernier s'appelle « Dans le silence de l'amour ». Elle va nous expliquer son parcours et surtout, au travers de ces mots, on arrive à comprendre ce que c'est que la guérison d'une âme, la connexion à l'amour qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire. Et surtout, on va parler aussi d'un mot nouveau qui s'appelle le multivers, la transdimensionnalité. Alors, je voudrais que tu me racontes comment tu en es venue à ce cheminement spirituel.
Ma vie a complètement basculé du jour au lendemain, on pourrait dire. C'était en 1997 et c'était au cours d'un travail sophrologique que je faisais. Et finalement, de manière tout à fait inattendue, ce travail a fait émerger un traumatisme que j'avais vécu dans la toute petite enfance qui était complètement occulté. Dont j'ignorais tout. Je me suis rendu compte après que je le portais comme tous ces gens. Maintenant, ce sont des choses dont on a beaucoup plus l'habitude, mais à l'époque, c'était très particulier. Mais il y avait une charge traumatique qui faisait que, en fait, je m'étais éteinte parce que, à la suite de cette agression dans la petite enfance, ce que j'aurais pu faire depuis cet âge tendre, c'est-à-dire avoir une interaction comme ça avec les mondes de l'invisible, comme en tous les enfants, mais surtout la conserver, la garder, a été complètement bloquée. Et quand j'ai eu 44 ans, que j'ai redécouvert cet événement, je suis restée pendant un mois dans un état de choc. En fait, je suis restée vraiment, j'avais comme l'impression d'avoir le cerveau dans du coton. Et en fait, c'était comme une alchimie intérieure, tu vois, invisible, une alchimie souterraine. Et tout d'un coup, ça a duré un mois cet état. Et au bout d'un mois, subitement, je me suis mise à penser à quelqu'un. Qui n'était pas dans la même pièce que moi. Et je l'ai vu comme ça peut arriver quand on pense à quelqu'un, sauf que là, je voyais tout son champ énergétique. En fait, je voyais son aura, je voyais ses couleurs, je voyais les couleurs de l'âme. Alors, j'étais complètement fascinée. Je n'étais pas si surprise que ça, parce que depuis quelques années, je m'étais intéressée aux dimensions énergétiques, à l'anatomie invisible. En fait, on est vraiment guidé vers notre chemin d'âme, finalement. Et je pensais faire ça juste par intérêt, par pur intérêt. Mais c'était vraiment une préparation. Ce qui fait que le jour où j'ai vu ça, je n'ai eu ni peur, peut-être de la surprise, mais je n'ai pas eu peur comme ça peut arriver à certaines personnes. Moi, j'avais eu cette préparation. Je me disais juste, ça, c'est vraiment incroyable. Je vois tous les corps subtils de cette personne. Et en même temps que je me disais, ça, c'est incroyable, j'arrive à voir, je savais, sans l'avoir jamais compris, ni lu, ni pour le coup, que je pouvais soigner cette personne. Parce que je voyais qu'il y avait, par exemple, des taches rouges ou des taches d'ombre, des choses comme ça. Enfin, c'était vraiment quelque chose, une expérience vraiment incroyablement extraordinaire, parce que ça se mettait en place comme ça. Et de loin, à distance. Hein, moi, j'ai vraiment commencé à distance. Et donc, j'étais dans mon canapé et voyant ce dessin comme ça, énergétique, on ne peut pas dire que c'était ma volonté. Les choses venaient, mais je savais qu'une part de moi, plus élevée, et plus évolué, on va dire, faisait le travail. Donc je ne pensais pas que ça venait de l'extérieur, je savais que ça venait de moi. Je n'aurais jamais pu expliquer ce que je faisais, ce qui se produisait, mais je savais que c'était juste et que c'était en place. Et surtout, après, quand je parlais aux personnes, parce qu'au fur et à mesure, j'en ai parlé à mes sœurs qui m'ont dit « mais tu veux pas faire un soin à tel ami ou à moi ?» J'avais des retours extrêmement positifs et je me suis dit « c'est donc ça ». Alors j'ai fait tout de suite le lien avec l'état de choc que j'avais vécu après la découverte de l'agression. Donc je n'étais pas surprise et ma seule crainte, c'était que ça s'arrête. Je me suis dit, c'est vraiment comme muscler un membre, une jambe ou enfin qui avait été atrophié. Il faut que je pratique parce que sinon ça va s'éteindre. Je me dis là, c'était tellement bizarre ce qui s'est produit, cet état comme ça complètement différent dans lequel j'étais plongée pendant un mois. Et du coup, je disais à mes sœurs, voilà. Alors j'ai commencé à faire des soins à mes filles, aux chats aussi. C'est ce que je raconte tout le temps, mais c'est vrai parce que les chats sont tellement des êtres qui sont régis par l'invisible, comme ça, beaucoup plus que nous. Et du coup, c'est venu comme ça, et c'est devenu, c'était incroyable, hein, dans un laps de temps finalement assez court, et de manière complètement secrète, hein, parce que je ne racontais ça à personne, à part mes sœurs et les quelques amis au début, sur qui je pratiquais, entre guillemets, mais surtout pas à mon mari, surtout pas aux autres, surtout pas à mes amis qui auraient été bien incapables de comprendre. Mais moi, je savais que je réveillais une faculté, et j'avais la connaissance et la compréhension que quelque chose que je savais faire depuis toujours s'allumait, se rallumait, se mettait en place, se réveillait. Je savais que ma vie allait se diriger vers ça, mais de manière absolue. C'était vraiment une totale certitude, tout en me disant « c'est quand même incroyable ce qui se passe, parce que je n'aurais jamais imaginé ». Et à l'époque, je parle de ça, aujourd'hui, depuis, je le constate avec mes patients, il y a énormément d'éveils de conscience comme ça, très rapide. Et les gens, quand ça se produit pour eux, ils savent aussi très bien, mais beaucoup mieux que moi à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de littérature, beaucoup de livres, beaucoup de témoignages de gens qui expliquent leur histoire, beaucoup, énormément de choses sur Internet. Les gens peuvent avancer très vite. Et puis les énergies qui sont en ce moment à l'œuvre sur la Terre permettent cet éveil très, très rapide. C'est comme un éventail comme ça qui s'ouvre. À l'époque, ça l'était moins. Mais au fond de moi, je savais où j'allais tout en l'ignorant. Enfin, tu vois, c'était quelque chose de très, très curieux. Et quand j'ai déménagé, là, il y a 3 ans, j'ai retrouvé des carnets ou des papiers comme ça qui dataient de la fin des années 90 et sur lesquels j'avais écrit, c'est peut-être pour ça que j'avais gardé, mais c'est marrant, je sais que je vais devenir thérapeute. Alors que moi, j'étais mère de famille, j'avais cessé de travailler pour des raisons personnelles longtemps auparavant. J'étais madame tout le monde. Et là, je me vois en train d'écrire. Je sais que je devais devenir thérapeute, mais longtemps avant que je prenne la décision et que mon chemin se mette en place. Ça a été vraiment un réveil, quelque chose... Enfin, je n'ai pas été surprise du tout. Et ma grande chance, parce que là maintenant, tes auditeurs peuvent comprendre ça parce que ça se produit de plus en plus souvent. Ce qui se produit encore un peu, je le remarque, c'est que les gens ont très peur quand ça leur arrive. Parce qu'ils se disent, je suis en train de devenir folle, on va me prendre pour une folle, on va m'empêcher de faire ci, on va m'empêcher de... je vais te montrer du doigt, je ne peux pas m'investir dans cette direction parce que là vraiment toute ma vie que j'ai bien construite va s'effondrer. Il y a encore le parallèle soigneur-charlatan. C'est encore très, très entretenu. Mais moi, j'ai eu cette chance incroyable. Vraiment, avec le recul, je me suis rendu compte de cette chance. Jamais je n'ai eu ces doutes-là. Ma seule crainte, c'était que ça s'arrête. Je reliais donc l'ouverture de ces capacités à cet état de choc suite à l'agression. Et je me disais, si je ne pratique pas, ça risque de s'étioler, de s'arrêter.
Ce qui est vrai, de toute façon, il faut quand même entretenir ce lien à l'invisible.
Oui, il faut, c'est vrai, il faut absolument entretenir ce lien à l'invisible. Mais si tu veux, ce que tu dis, qui est une totale évidence, ça m'est sorti de nulle part, tu vois. C'est comme si vraiment je réveillais une connaissance très ancienne, très profonde. Il y avait un appel comme ça. Et ce qui était vraiment plaisant et troublant, c'est que je savais faire, hein, que je savais soigner, mais je savais aussi que je savais beaucoup mieux soigner. Et j'aurais été incapable à l'époque de mieux décrire, mais en fait, après, au fil de toutes ces décennies, je me suis rendu compte que j'étais en résonance vibratoire comme ça avec des vides guérisseuses dans lesquelles j'étais même bien plus performante qu'aujourd'hui. J'en ai retrouvé. Alors, on porte tous en soi des vies dans lesquelles on a été terribles, mais aussi des vies dans lesquelles on a été des personnages extraordinaires. Et j'ai retrouvé comme ça des vies dans lesquelles j'étais un peu comme ce que Jésus nous enseigne quand il nous disait « vous ferez comme moi et mieux encore ». C'est-à-dire, je posais la main et... Je me rappelle, j'avais retrouvé à l'époque une vie d'une femme en Sicile et qui soignait les lépreux. Alors du coup, elle était très déconsidérée parce qu'on l'a laissée vivre là dans l'endroit des lépreux, mais qui les soignait. Et ça peut paraître étrange. Enfin bon, moi, j'ai toujours trouvé tout normal, tout naturel.
Tellement de gens qui se révèlent thérapeutes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de thérapeutes à l'heure actuelle ?
Je me la suis posée très souvent. Et je me disais même, mais on va être tellement nombreux à être guérisseurs que finalement, plus personne ne va avoir de travail. Mais d'une part, je me suis rassurée parce que je me suis dit, si c'est comme ça, c'est que c'est juste et que ça doit être. Et effectivement, il y a aussi énormément de personnes qui sont dans le besoin de soins autres que la médecine classique, que la médecine allopathique officielle, qui peut soigner bien sûr, bien évidemment des tas de choses, mais pas tout. Et les gens ont besoin beaucoup d'une compréhension, puisque eux-mêmes se réveillent à ces dimensions de l'invisible. C'est pas un médecin qui n'a pas du tout été formé à ces univers-là, qui n'a pas la connaissance parce qu'on ne lui a pas enseigné, qui va pouvoir l'aider et lui dire vous vivez telle chose, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ou là, tel corps énergétique, tel centre énergétique ne fonctionne pas, je vais vous aider. Et en fait, je pense que s'il y a un tel éveil, si tellement de thérapeutes, si tellement d'êtres ou d'âme thérapeute et portée par cette énergie du soin se sont incarnés aujourd'hui et se réveillent aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir il va y avoir pendant un temps X un énorme et un immense besoin d'accompagnement. Ça, je le pense vraiment. Mais tu vois, c'est cette question, c'est vrai, je me la suis posée de l'intérieur en me disant, oh là là, mais au fait, tout ce que je fais, finalement, je... ça ne... Enfin, tu sais, un petit peu comme quand on a peur de perdre son outil de travail ou son métier. Et pas du tout. Non, je crois vraiment. Et puis, en fait, ce que j'ai constaté aussi, c'est que chacun d'entre nous, en tant que soigneurs, avons une spécificité vibratoire. Tout ça, c'est pas des choses qu'on peut vraiment expliquer. Enfin, tous les thérapeutes vibrent d'une manière particulière et attirent à eux des gens qui sont en résonance comme ça avec eux. Et du coup, bah, c'est très bien qu'il y ait un tel éventail, encore une fois l'éventail, mais l'humanité, c'est une palette de couleurs et donc de vibrations énormes. C'est bien que chacun puisse s'accorder comme ça avec la personne qui va pouvoir l'aider.
Alors, tu écris 3 livres, ça a l'air infini, parce que je suppose que tu nous embarques vers le 4e, à la fin du 3e. Enfin, moi, je veux savoir la suite. Ça a été crescendo. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ces 3 livres? Pourquoi, toi, ça a été nécessaire d'écrire encore et encore et toujours sur la guérison, sur ce pouvoir de l'amour?
Alors, il y a eu 3 livres. Écoute, quand j'ai terminé le premier, à un moment donné, j'ai senti, c'était comme un appel intérieur, c'est comme quand j'ai commencé à soigner. Je me suis dit, il faut que j'écrive. Quand le livre a été terminé, je me suis dit, voilà, je suis bien contente, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et pour moi, c'était clos. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mama Édition et qu'ils accueillent mon livre comme ils l'ont fait. Et pour moi, j'avais écrit un livre et tout va bien. Et pas si longtemps après, finalement, il y a eu la même force, en fait, intérieure. Tu vois, c'est vraiment comme un appel intérieur qui me disait, non, vas-y, recommence. C'est très curieux parce que c'est exactement la même énergie que celle qui préside aux soins. C'est-à-dire que c'est nous sans être nous. Il y a cette espèce de compréhension qu'on doit faire quelque chose, de connaissance que c'est nous qui avons quand même en dernier ressort la direction des événements, parce que j'aurais pu très bien dire non, je ne veux plus, et puis me dire non, c'est trop fatigant, je ne le fais pas. Mais en même temps, il y a aussi une autre énergie, une autre dimension qui nous fait dire je ne peux pas ne pas le faire. Tu vois, comme si c'était les guides, enfin c'est pas comme si, c'est ça. Les guides nous disent, ou la partie de moi, thérapeute, qui écrit, Parce que j'ai vraiment la sensation, quand j'écris ces livres, d'être habitée et traversée par la même énergie que celle qui m'habite et me traverse pendant les soins. Et d'ailleurs, très souvent, les gens le ressentent. Tu vois, hier, j'ai eu un retour qui m'a énormément touchée, d'une dame qui vient assez régulièrement me voir, et qui vient une ou deux fois dans l'année. Et qui me disait qu'elle venait d'achever le nouveau livre, et qui me disait, c'est incroyable ce qui m'est arrivé, Agnès. Après l'avoir fini, j'ai été prise d'une envie de dormir extraordinaire. Il a fallu que je laisse mes petits-enfants, que je laisse tout le monde, et que j'aille me coucher. Et je comprenais que quelque chose avait besoin d'être réaligné. Donc, il y a longtemps, je sais, parce que dès le premier livre, on m'a fait part de ce genre de commentaires. Ce sont donc des livres de soins. J'imagine que quand les guides ont besoin ou envie que je le développe, il me pousse à continuer. Du coup, après, il y a eu le second. Le second était beaucoup plus épais. Il m'a pris beaucoup plus de temps encore à l'écrire. Je continue à travailler quand j'écris. Donc, quand une fois qu'un livre est terminé, moi, je me dis, youpi, c'est les vacances. Et puis, les vacances ont été de courte durée parce que ça a recommencé. Et là, je m'appuie un peu sur le fait que mes éditeurs et les gens en général disent « Ah, c'est une trilogie !» Voilà, c'est le 3e volet de la trilogie. Donc je me dis « Si c'est une trilogie, c'est parfait !» Je vais arrêter. Mais j'ai comme une espèce de Je ne sais pas, mais je pense que peut-être que possiblement il va encore me sonner les cloches pour poursuivre. Mais j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi parce que c'est très prenant cette chose de l'écrit comme ça, en plus du soin. Et c'est simplement maintenant que les trois livres sont là, qu'il y a cette composition en trois volumes, que je comprends le dessin qui a été écrit, qui m'a un peu traversée sans que je m'en rende compte. Parce que c'est de la même manière que nous, quand on travaille, on ne sait pas, on canalise. Hein. On est vraiment des, j'aime bien dire, des gouttières, comme ça on se laisse traverser par l'énergie qui est pour la personne, qui passe à travers notre main, qui va soigner la personne. On a, parce que encore une fois, comme j'ai essayé de l'expliquer un peu maladroitement tout à l'heure, mais on a un peu le mental peut être là, même s'il est très en arrière, mais une compréhension. Alors on se dit, ah ben voilà, c'est tel type d'énergie qui est, voilà. Mais c'est minime par rapport à la réalité, hein, vécu comme ça, c'est minime par rapport à toute cette œuvre absolument incroyable qui passe à travers le soin des guides de l'invisible, des guides thérapeutes. Nous, on prend ce qu'on peut prendre avec nos sens humains, mais quand on est traversé comme ça... C'est absolument incroyable. C'est comme si nous, on voyait, là, j'ai une image comme ça, comme si on voyait un petit brillant, et alors qu'ils nous font passer une rivière de diamants. Et nous, on se dit, oh, quel joli petit brillant, mais en fait, ce qu'on fait passer... Et dans le livre, bien au-delà des mots, bien au-delà de l'écrit, il y a comme ça une puissance, une qualité vibratoire. Et je m'en rends compte, tu vois, avec l'achèvement comme ça de ce troisième livre ou tome ou ce qu'on veut. Et du coup, je trouve que ça fait quelque chose de, voilà, de global, de fini.
Moi, j'ai ressenti ça en lisant justement le finissant hier soir, qu'on ressent une immense paix et ça nous reconnecte à tous les univers, enfin multivers comme tu dis. J'aimerais bien que tu reviennes sur ces guides, sur cette conscience, tu en parles très bien dans le livre. En fait, tu expliques bien qu'on est dans le cycle de réincarnation et il y a aussi cette dimension d'accéder à une ligne de temps qui n'est plus donc linéaire. Moi j'en ai souvent parlé avec mes invités, mais qui est circulaire et qui permet de vivre dans... Alors ça c'est intéressant, c'est ce que tu dis, il y a plusieurs fragments de soi qui sont répartis dans l'univers, et toi-même, si tu veux l'expliquer, t'as rencontré déjà des parties de toi.
Absolument. Et ces parties de soi, ça nous arrive à tous, hein, sauf que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et avec le recul, j'ai compris que ça m'était arrivé il y a bien longtemps, sans que je comprenne ce dont c'était question. Il était question, et souvent, je me disais, tiens, j'ai fait une rencontre de tel être, etc. Et longtemps après, je me suis dit, mais... c'était moi, en fait. Et du coup, effectivement, de ce que j'avais compris dans le livre, je pars de la comparaison avec le manège, parce que j'habitais en face du parc Montsouris à Paris. Il y avait un petit manège, c'est plus le manège actuel, que, malheureusement, qui est moins joli, mais bon, petit manège ancien. Et qui me donnait comme une espèce de description de l'anatomie, comme ça. Et le ciel, surtout le ciel, les nuits d'hiver, quand c'est plombé dans les grandes villes. Et je me disais, bon, ben voilà, ça c'est la source. Et puis il y avait le sommet, la flèche, comme ça, du petit manège. Je me disais, ça c'est notre moi divin qui est issu de la source, et vu de là où j'étais dans mon immeuble, ça donnait la sensation de toucher cette source, donc c'était vraiment une émanation du moi divin. Et puis ça se décomposait comme ça, il y avait une jeu dans la structure du manège, la tente du manège, il y avait une grosse boule. Je disais, ça c'est notre âme, ou encore une partie un petit peu plus proche de nous, qui est celle qui nous dirige et qui émet comme ça, comme les baleines d'un parapluie, sauf que là c'était le petit manège, là, cette toile de tente comme ça, différentes émanations, différents personnages en fait, que nous sommes dans le temps présent, ici maintenant, sur Terre ou pas sur Terre, dans le temps présent ou pas, dans le passé, l'avenir, tu vois. Et tout coexiste et on a un lien par cette remontée à la source. C'est ce qui est toujours décrit depuis la nuit des temps dans les enseignements spirituels. Tout est un. C'est juste décomposé comme ça. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on commence à avoir accès maintenant à cette connaissance-là et à se dire, oui, j'existe ici, mais j'existe aussi là-bas. Il m'est arrivé de faire des rencontres d'autres personnages humains bien réels, justement ici et maintenant, et de comprendre. Alors le premier, j'ai mis 16 ans à comprendre que c'était moi, mais que c'est un autre... Comment dire ça ? Un autre soi, mais c'est une autre Agnès Thévenin, mais sous forme, par exemple, le premier que j'avais rencontré, c'était un sadhu en Inde, qui m'avait énormément bouleversée, j'avais cru... Alors, en fait, les interprétations se font à l'aune de notre connaissance. À l'époque, je ne connaissais que l'idée de la réincarnation, et donc je m'étais dit, certainement, ça a été cette être là qui a une puissance spirituelle, c'était fou. Enfin, c'est une rencontre vraiment bouleversante. Cet être là est certainement été mon maître. Donc certainement été mon maître. Je me suis dit, cet être là était mon maître. De temps en temps, je voyais son visage comme ça dans des circonstances très précises, et c'était un bouleversement profond que je n'arrivais pas à m'expliquer. Alors qu'il m'arrive assez régulièrement de voir des êtres de lumière. Je me disais, pourquoi est-ce que celui-là, ça me met dans un tel état de nostalgie, de manque et de non-compréhension de quelque chose. Et puis en lisant un livre de Michael Rhodes, tout d'un coup j'ai compris, je me suis dit voilà, ça y est, c'était moi. Et au moment où je me suis dit cet être-là, ce vieux monsieur Sadhu, là, dans son pagne, tout nu, aveugle, avec un turban sur la tête comme ça, qui faisait l'aumône accompagné d'un petit garçon, ça n'était pas mon maître, c'est moi en même temps sur la terre. Au moment où j'ai eu cette compréhension-là, j'étais dans un état de paix totale. Je ne l'ai plus jamais revu. Et c'est comme si, au moment où j'ai compris ça, j'incorporais en moi toutes ces capacités. Comme si je me réunifiais à lui. Et dans le livre aussi, je raconte que j'ai fait une rencontre, alors là, beaucoup plus concrète. C'était une jeune femme qui venait me voir en soins. Une fille beaucoup plus jeune que moi, qui avait l'âge d'être ma fille. Et quand j'ai posé ma main sur elle, ça a été la même chose. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi. Enfin, il y avait comme si je me fondais. Et donc, je lui ai fait la réflexion. Je lui ai dit, voilà ce que je ressens. Parce que tout de suite, j'ai pensé à mes 16 années d'errance, de douleur, de souffrance, quand ça venait, cette histoire-là. Et je me suis dit, là, il faut que j'agisse, il faut que je réagisse, il faut que j'en aie le cœur net. Et elle m'a répondu, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Elle n'était pas du tout surprise. Elle dit, oui, mais quand je suis venue, mon mari m'accompagnait, je lui ai dit, tu sais, je vais voir ma jumelle. Et son mari avait répondu, ça m'avait bien fait rire. Oui, bon, enfin, elle a quand même 20 ans de plus que toi, ta jumelle. Et nous savions, vraiment. Alors en plus, c'était d'autant plus intéressant, cette rencontre-là, qu'elle avait un parcours très proche du mien. Un petit peu plus édulcoré, mais elle vivait avec un artiste, elle avait eu, alors un petit peu plus, même beaucoup plus édulcoré, puisqu'elle avait 3 enfants, elle avait gardé ses 3 enfants. Sa dernière petite fille s'appelait Rosalie, et puis surtout, elle était en train de devenir soigneuse, guérisseuse, enfin thérapeute, je cherchais le mot un peu officiel. Et il y avait beaucoup, beaucoup de points communs. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que là, la révélation s'est faite très simplement. On s'est dit, bah oui, voilà, nous sommes l'une et l'autre. Et puis finalement, on se voyait assez peu. On se voyait quelques fois par an. Comme ça, on déjeunait ensemble. Ou de temps en temps, on faisait des échanges de soins. Ça, c'était génial. C'était vraiment... Puis je soignais ses enfants, elle soignait mes filles. Mais il n'y avait pas vraiment de besoin comme ça de se voir. Y avait pas... C'était juste des retrouvailles. Et puis après, on laisse l'autre vivre son expérience de vie.
Pas besoin d'être accroché à lui ou de se retrouver, de se fusionner, quoi, on va dire.
Ça n'est pas le but, puisqu'on se décompose pour expérimenter, pour que l'âme, notre âme, tout là-haut, là, expérimente différentes facettes de la vie. Finalement, moi j'ai considéré que c'était... Puis on en parlait, on avait le même point de vue. On considérait que c'était un cadeau qu'on puisse se rencontrer, mais que l'idée n'était pas de passer notre temps comme si on était les meilleurs amis du monde. Et c'est marrant. Et en fait, on s'est un petit peu détaché comme ça à un moment donné. Il n'y a pas de manque. Elle est là. Je sais que je peux l'appeler quand je veux, mais elle ne le fait pas moi non plus, parce que finalement, on s'est rempli comme ça pendant ces quelques années de retrouvailles.
Est-ce qu'on peut parler d'âme sœur ? Est-ce que c'est cette notion-là ?
Non, oui, c'est ça. C'est une question qu'on me pose très souvent. Je ne dirais pas que c'est une âme sœur, puisque c'est nous-mêmes. Et une âme sœur, enfin en tout cas dans ma compréhension de l'âme sœur, c'est une âme amie, une âme, enfin sœur ou amie, c'est un autre être que soi avec lequel on a établi des liens d'amour et d'amitié très anciens depuis très longtemps. Et quand on se retrouve, en fait, on a établi des ponts énergétiques entre nos centres énergétiques. On est reliés et on ne peut pas se louper quand on se croise. On le sait tout de suite, on a l'impression comme ça de... On se dit, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Ce sont des retrouvailles karmiques. Là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est... un autre nous-mêmes qui vit une vie différente et à côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait maintenant, parce que moi, ce que je raconte, je ne suis pas la seule à l'avoir découvert, et certains auteurs le disent dans les livres. Du coup, moi, j'aime bien parce que ça valide un peu mes découvertes, et je me dis, bon, ben là, je ne me suis pas trompée. Parce que ce sont des domaines quand même tellement surprenants. Enfin, on marche sur des œufs, on n'a pas le manuel. Et on est en train de l'établir, le manuel, là, tous les gens qui vivent ces expériences et qui comprennent au fur et à mesure. On a la chance d'avoir quelques expressions de nous-mêmes sur la Terre, ici et maintenant. Mais il y en a d'autres qui vivent leurs expériences, justement, alors, soit dans le passé, comme on le disait, le passé, le futur, le temps de l'entre-deux-vies aussi. Parce que ça, c'est, et ça donne des réponses tellement encourageantes par rapport au, à la mort, par rapport au deuil, par rapport à la séparation. C'est que quand on perd un être cher, on se dit, il est là-haut, c'est fini, je ne peux plus le voir. Bon, et oui, je fais un tout petit paragraphe dans le livre parce que pour moi, c'est tellement important. Certaines personnes viennent, elles sont dévastées en me disant, ben voilà, j'ai vu une médium, thérapeute ou voyante, ou pas. Enfin, des gens qui ont des capacités comme ça de dialogue avec l'invisible. Et on m'a dit que mon mari, mon enfant s'est réincarné. Donc, c'est vrai pour l'avoir vécu, parce qu'on me l'a dit aussi une fois. J'étais pas tout à fait d'accord. Je sentais pas que c'était tout à fait juste la réincarnation en question. Bon, mais ça, peu importe. Mais les personnes qui n'ont pas le moyen comme ça de valider par eux-mêmes, quand on leur dit, ben voilà, votre cher mari, non, mais maintenant, vous en faites pas, c'est un bébé dans une autre famille en Australie. C'est horrible. C'est comme un autre deuil. On a une impression de perte effroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné... Le mot que tu utilisais tout à l'heure, cette multidimension, une part de nous continue à vivre là-haut, et enfin là-haut, donc dans ce monde de l'entre-deux-vies, et peut venir nous visiter. Ça n'empêche pas l'être que l'on a connu, que l'on a aimé, notre mari, notre enfant, notre grand-mère, comme ça, même s'il est réincarné à l'autre bout de la planète, la forme qu'on a connue peut continuer à interagir avec nous. Et c'est vraiment, je trouve, une merveille de consolation. Parce que sinon, les gens, ils se disent, bon, ben là, c'est fichu. La rupture est totale. C'est pas vrai. On existe dans plein d'expressions de soi.
Comme si c'était un miroir qui était défragmenté.
Voilà.
Et on est partout, comme tu dis, dans le multivers. Ça peut être sur d'autres plans astro, dans le futur, dans le passé. Tu parles aussi d'une chose qui est intéressante, c'est que tu dis qu'on se réincarne souvent dans la même famille et on peut être très bien la grand-mère ou l'arrière-grand-mère.
Voilà, le transgénérationnel. Alors ça, c'est assez récent, cette découverte. Et j'en ai beaucoup parlé avec une de mes filles, avec ma fille Clara, qui est thérapeute aussi. Nous sommes notre propre réincarnation. Et c'est ce que je vais dire là, je trouve que ça donne un éclairage nouveau sur ce qu'on appelle le transgénérationnel, qui est de plus en plus utilisé dans les soins thérapeutiques ou par les psys, etc. Et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que c'est une donnée formidable de se dire, j'appartiens à cet arbre, de reconnaître l'arbre et de reconnaître les forces, les ressources, les potentiels de l'arbre, mais aussi les faiblesses, etc. Et j'entends beaucoup de personnes, enfin j'entendais beaucoup de personnes qui me disaient « Ah mais si je suis comme ça, c'est parce que je porte mon arrière-grand-mère et du coup j'ai pris sa douleur ou ça... » Alors ça peut être aussi bien des pathologies physiques. Mon arrière-grand-mère avait telle chose, ben voilà, alors je l'ai repris. C'est déjà un éclairage, je trouve, très intéressant sur le fait que, encore une fois, nous ne sommes pas seuls, nous sommes unis, soudés, voilà. Mais ce que je découvre de plus en plus, c'est que bien souvent, l'ancêtre en question, c'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui venons continuer quelque chose qui n'a pas pu être réparé. Par exemple, si j'avais une patiente une fois qui savait, parce qu'elle avait fait un travail avec une psy, que sa grand-mère, ça avait été révélé comme ça dans le cadre du travail, sa grand-mère avait été, ou son arrière-grand-mère qu'elle n'avait pas connue, avait subi des attouchements. Elle disait, bon, moi aussi j'ai un problème comme ça avec la sexualité, mais ça remonte à ma grand-mère. Et là, dans la séance, ce qu'on me montre, c'est que cette arrière-grand-mère qu'elle n'avait pas connue, c'était elle. Et qu'elle venait elle-même prendre en charge cette souffrance pour s'en libérer. Et ce n'est pas... Oh là là, je porte le fardeau, je porte le poids de la douleur et du traumatisme de cette arrière-grand-mère, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a pris Non, pas du tout, c'est je viens et je continue et je vais me libérer moi-même. Alors moi-même aidée par des thérapeutes, etc. Mais je trouve que ça donne un éclairage mais génial, quoi, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous montre qu'on est vraiment décideur de nos vies, on est acteur de nos vies, on n'est pas victime. Ça, voilà, ça nous sort de l'état de victime, cette histoire-là. Parce que combien m'ont dit « Ah mais oui, mais là, c'est comme s'il y avait une condamnation ». Mon ancêtre était comme ça, ben moi je suis fichu. Non, pas du tout. Ton ancêtre était comme ça. Mais si c'était toi ton ancêtre, et bien souvent ça l'est, et ça les guides, on a cette connaissance au travers de l'information et la validation des guides, et ben au contraire, c'est voilà, maintenant tu peux te libérer. Et tu ne vas pas mettre 25 vies à te traîner ce machin sans pouvoir y réussir, y parvenir.
D'ailleurs, on le voit de plus en plus, c'est ce que tu dis, je suppose, dans tes trois livres, qu'on est là pour nettoyer et pour aller beaucoup plus vite, pour nettoyer toutes ces zones d'ombre. Et...
Ouais, on est vraiment venu nettoyer. C'est pour ça que nos vies sont tellement compliquées. Et je ne parle même pas de ce qui se passe en ce moment là, depuis 2 ans. Mais quelquefois, on se dit, qu'est-ce qui m'a pris de me charger autant ? Et en fait, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui sont sur la Terre se sont dit, en accord avec cette fin de cycle et cette transformation, pour pouvoir être alignée, il faut que je me purifie, que je me nettoie des mémoires que j'ai laissées de ci, de là, une au Moyen-Âge, l'autre par-ci, par-là. C'est comme, en ce moment, j'aime bien utiliser cette comparaison. Je dis aux personnes, vous voyez, c'est comme s'il y a un immense tapis. C'est pas juste le petit tapis là, comme celui qu'on a sous les pieds. Un immense tapis, on s'est dit, bon, je vais nettoyer sous le tapis. Et jusqu'au milieu de dessous le tapis. C'est pas juste les bords du tapis. On soulève et on nettoie tout. Ce qui fait qu'il y a nos vies, quelquefois, sont vraiment constellées d'épreuves, de difficultés, de souffrances, de toute nature, hein, que ce soit maladie, deuil, perte d'emploi, enfin des choses très, 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 très lourdes, séparation, des choses comme ça. Mais c'est qu'on s'était dit, je viens... Apuré, c'est comme remettre un ordinateur à zéro, enfin on ne dit pas zéro pour un ordinateur, mais reconfiguration, voilà, il faut tout nettoyer. Et du coup, quand on a cette compréhension et cette vision des choses, je trouve ça, là aussi, c'est vraiment une source d'apaisement, parce qu'on se dit, je suis en travail de nettoyage, je vais après tellement vibrer en syntonie avec les énergies qui viennent sur la Terre en ce moment, que je vais pouvoir faire ce travail, ce mouvement d'ascension dont on parle tant. Si on est comme ça, complètement alourdi par nos traumatismes, nos douleurs, nos souffrances, et qu'on ne fait pas le chemin vers la guérison de soi-même, de son être profond, quand on est trop lourd, c'est dur de s'envoler, hein. Donc nous sommes nombreux sur Terre, mais nous sommes nombreux sur Terre avec de lourdes choses que nous sommes venus guérir pour pouvoir participer comme ça à cette transformation, pour arriver vers ce monde nouveau là, qui nous attend. Alors on ne sait pas quand, mais espérons que ça se rapproche.
Et ça peut se faire dans cette vie même, il ne faut pas désespérer.
Non, là ça devient de plus en plus clair et tous les avis convergent et toutes les canalisations convergent. Alors on ne peut pas mettre de date parce que là-haut, le temps n'existe que sur la Terre, enfin ce temps-là que nous connaissons sur Terre. Et bien sûr, oui, là c'est vraiment imminent. Alors personne n'est en mesure de dire c'est dans 6 mois, c'est dans un an, c'est dans 10 ans, mais je pense que ce sera bien avant 10 ans. Cette grande transformation.
Que tu peux nous parler des guides ? Parce que tu dis que quand tu fais un soin, souvent il y a une flopée de personnes autour de toi. Est-ce qu'on peut se connecter facilement ? Comment on peut faire ? Et justement, est-ce que ça peut nous pacifier de savoir qu'il y a toujours un lien avec des guides qui nous aident ?
Oui, ça peut. C'est une source extrême de pacification, de savoir et en fait que nous sommes accompagnés, car nous le sommes tous, par au moins un guide, mais en général il y en a beaucoup plus, souvent c'est 2, 3, 4 personnes, ça dépend, qui font des allées-venues, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est comme ça que ça se passe. Hein, et c'est vraiment important. Et c'est drôle que tu me dis ça, parce que je racontais l'autre jour, il y a 1 ou 2 jours, la première fois où je me suis raccordée à cette idée de guide et d'ange et d'ange gardien. Quand j'étais enfant, j'y croyais dur comme fer. Et même, je me reculais sur mon lit, je me rappelle, pendant tout un temps, comme ça, dans ma chambre, je me reculais, je me recroquevillais dans mon lit en me disant, il faut que je lui laisse de la place. Et je le voyais, un bel ange. Alors, je ne saurais pas dire aujourd'hui si je le voyais ou si je l'imaginais, parce que je voyais des ailes. Bon, maintenant, quand je vois les êtres de lumière, je ne vois pas trop d'ailes. Mais bon, peu importe, on va dire que c'est la vibration. Mais en tout cas, j'y croyais dur comme fer. Après, au décès de ma fille, j'ai complètement rejeté tout ce qui était pour moi de l'ordre de la croyance un peu infantile, etc. Donc je suis restée, j'ai connu l'état d'athée pendant pas mal d'années. Hein. Et un jour, mais alors ça me manquait, parce que quand on a vécu comme ça en harmonie dans l'enfance, par moments quand même, j'avais une petite nostalgie. Et un jour, je tombe, mais c'était il y a longtemps, hein, c'était dans les années 90. J'étais en train de me chercher une place, j'étais à Montparnasse, je me rappelle, en voiture. Et j'écoutais une émission, c'était rare à l'époque, sur justement les anges. Et existent-ils, en avons-nous un, etc. Et l'intervenant, dont j'ai complètement oublié qui c'était, dit « Mais bien sûr, oui, oui, nous en avons. » Et moi, j'étais prise par une espèce de chose qui est venue comme ça, et je me suis dit « Bon, bah, s'il y en a un, bah, montre-toi et trouve-moi une place. » Voilà, un peu violemment comme ça, parce que je venais de loin avec cette histoire de perte de foi, de perte de confiance en tout l'invisible. Pour moi, c'était devenu un peu... Il n'avait pas protégé ma fille, donc j'avais un vieux contentieux. Bah alors, si j'en ai un, si tu existes, ben, trouve-moi une place. Et à ce moment-là, la voiture devant moi met son clignotant et me laisse, tu vois. Je n'avais qu'un créneau à faire. Et là, je me suis garée en tremblant et je suis restée, je crois que j'ai dû rester un bon quart d'heure à trembler, j'avais les larmes aux yeux, si ça se trouve je pleurais, c'était il y a longtemps, j'ai un peu oublié, mais je sais que j'étais dans un état d'émotion extrême et je me disais donc oui, tu vois, voilà, pour moi c'était une preuve. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, ça peut paraître un peu pas bizarre ou particulier, mais pour moi l'évidence est revenue et je me permets, alors c'était bien avant que je sois devenue médium, enfin que je les vois, que j'interagisse avec eux, mais maintenant que je les vois, je peux dire oui, 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 nous en avons tous. Et c'est vrai que dans certaines séances nous sommes très entourés, parce qu'ils viennent soit pour, tu vois, faire passer un petit message, soit pour compléter le soin avec justement une note vibratoire particulière. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quand on se désespère chez soi en disant « je suis tout seul, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de famille, je n'ai... » Oui, d'accord, mais tu as tes guides hein, de l'autre côté et tu peux vraiment te relier à eux. Et la première des choses pour se relier facilement, c'est de croire que c'est possible. C'est de croire surtout que c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est même pas une question de croyance. Là, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc, on a toute liberté de se dire... excuse-moi, je vais être un peu grossière, mais c'est de la foutaise. c'est pas une faute. Voilà, c'est notre expérience. Juste, on se condamne à se priver d'une source de bonheur et d'harmonie et d'amour... très très grande. Et donc se relier, c'est d'abord se dire bon bah ok, je vais changer comme ça mon espèce d'état mental de fermeture, de séparation, me dire oui, et après se dire bon, s'ils sont là, bien sûr que je peux communiquer avec eux, et d'ailleurs ils communiquent tout le temps avec nous, notre intuition ça n'est pas autre chose que nos guides qui nous soufflent. Hein, fais ça, vas-y, tiens, t'as oublié telle chose, ou qui nous... Alors c'est une source d'inspiration dans les domaines artistiques. Hein, dans les domaines du soin, bon, ce sont eux qui font vraiment le travail. Nous, on est vraiment des outils de transmission. Mais les grands peintres, moi, j'avais une expérience, c'était pas religieux, c'était presque mystique, c'était vraiment une expérience spirituelle, à Londres, quand ils ont ouvert la New Tate Gallery. Et il y avait des grandes toiles de Roscoe. Et il y avait une grande exposition, je crois, quelques années auparavant à Beaubourg, à laquelle je n'avais pas pu aller. Puis en plus, j'avais vu l'affiche et je m'étais dit... Bon, bah oui, il fait des traits et des coules sur fond de couleur, comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Mais, donc, je m'étais dit, je n'ai pas le temps, je n'y vais pas. Et puis là, j'étais ravie d'avoir ce temps pour moi de visiter là. Et alors, elles étaient exposées, j'espère que c'est toujours comme ça, dans une immense, mais immense, immense salle avec des très, très hauts murs. Et sur chaque mur, il y avait une ou deux toiles, enfin, des toiles surdimensionnées comme ça. Et en pénétrant dans cette pièce-là, ça donnait la sensation physique, réelle, de pénétrer dans une cathédrale, mais habité de manière... Enfin, il y avait la sensation physique du divin dans cette pièce. Et c'était un peintre contemporain. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça. Les artistes aussi... Enfin, alors, on le sait, les peintures comme ça, italiennes, du Quattrocento, ce sont des figures religieuses sur certains tableaux de Marie, bon, on le sent bien, n'importe qui peut se dire. Là, c'est vraiment, justement, c'est des traits sur fond de couleur uniforme. Et c'était extraordinaire, voilà. Les scientifiques aussi sont reliés à l'inspiration de leur guide, les découvertes, tout ça, d'où ça vient. Alors, ça peut venir d'êtres d'autres mondes qu'ils peuvent rencontrer dans d'autres dimensions, mais ça, c'est autre chose. Mais bien souvent, ce sont les guides, ils sont partout. Et puis, pour des choses très concrètes, comme par exemple, justement, se garer.
Il y a aussi, enfin, ce que j'aime bien dans ton approche, dans tes livres, c'est que, voilà, tu doutes, tu remets en cause, t'es complètement naturel, et aussi, t'expérimentes tout. Tu t'expérimentes comment on pourrait dire ça, un changement de temps, par exemple face à une statue de Néfertiti, enfin une statue, une représentation de Néfertiti. Tu vas expérimenter tout sans peur, tu y vas, en fait, tu suis vraiment le
fou. Oui, ça c'est vrai, je crois que c'est le mot-clé. Et alors s'il reste un conseil de tout ce que je viens de dire, ce serait vraiment celui-là, c'est de ne pas avoir peur, parce que ce qui nous vient en retour, c'est pur bonheur, pur cadeau. Justement, tu parles de Néfertiti, c'est vrai que j'ai écrit un petit texte à la fin parce que j'avais tellement été bouleversée. Voilà, pour ça, les musées, c'est génial. Alors, il y a le musée contemporain, avec Rosco, mais il y a les musées des antiquités. Et ça, c'était à Berlin. Elle est exposée à Berlin, le buste de Néfertiti qui est tellement connu. Et j'avais très envie de le voir, mais comme ça, parce que c'est un personnage qui nous accompagne depuis l'enfance, quoi. Bon. Et quand je me suis retrouvée posée à hauteur à peu près humaine, comme ça, et cet être absolument incroyable, j'ai beaucoup l'habitude d'aller à Lourdes, non pas tellement dans une intention catholique, mais dans une intention d'énergie, de recevoir cette énergie. À Lourdes, c'est vraiment l'énergie du divin féminin, c'est le féminin sacré, c'est l'énergie de Marie, mais Marie c'était son nom quand elle était sur Terre, maintenant c'est vraiment une énergie d'une puissance, c'est vraiment la sensation d'être dans cet aspect féminin du divin. Quand on va au Mont-Saint-Michel, c'est l'aspect masculin, c'est très bon, voilà. Et Néfertiti, je retrouvais cette énergie merveilleuse qu'on peut avoir quand on a la chance d'aller voir Amma ou Mermira, enfin ces êtres comme ça qui sont porteuses d'énergie vivante, là. Ce sont des êtres vivants qui nous touchent. Mais au travers d'une statue qui, alors je ne saurais plus dire quel âge a la statue de Néfertiti, mais quand même pas mal de millénaires, c'est comme si elle était là et que tout d'un coup, elle nous encerclait d'amour. Enfin, moi, j'ai vécu effectivement une expérience... comme une expérience d'extase et de retrouvailles. Et alors on peut se dire, bon, cette pauvre femme est devenue complètement folle, elle est allumée là comme ça devant la statue de Néfertiti. Mais quand on a la chance, quand je vois que ce dont je me rends compte, c'est que bien souvent on bloque des choses qui pourraient nous nourrir de manière merveilleuse, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre la tête ou de péter un câble, etc. Et si on a l'ouverture de se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'attend? Ça peut être génial. Il peut ne rien se passer. Je peux me tromper parce que quelquefois aussi, on s'auto-convainc de choses qui n'existent pas. Mais ça ne nous met pas dans un état pareil d'amour profond. Et ça, c'est vraiment le révélateur que quelque chose se passe. C'est quand le cœur s'ouvre à l'extrême. Oui, alors avec Néfertiti. Et tout d'un coup, c'est ça. Le passé se fond dans plutôt le présent se fond dans le passé. On ne sait plus où on est. On ne sait même plus si on est sur Terre ou pas. On est dans un état. L'état de... Tout simplement, on pourrait dire juste, on est dans l'état d'amour. Et du coup, tu vois, c'est marrant, tu me fais revivre le moment. Je me rends compte que les visiteurs comme ça qui s'approchent presque, enfin, j'allais dire presque religieusement, mais c'est ça, il y a une telle puissance que même si on n'est pas du tout croyant, même si on ne connaît rien à rien, cette œuvre d'art est d'une telle beauté que les gens s'approchent avec respect. Puis en plus, ils se disent, ah, enfin, Néfertiti que j'ai vu dans mon livre d'histoire quand j'étais en sixième. Donc, c'est pas anodin, hein, c'est pas une autre statue. Mais je pense que ce qui se vit là autour d'elle vient de ce qu'elle répand vibratoirement sur nous. Et tout d'un coup, de découvrir que dans un musée, dans une église, dans une cathédrale, dans une source de montagne, hein, c'est pareil. Quelquefois, le divin est partout. Dans la création humaine, dans l'art et puis dans la nature, bien sûr, comme on sait. Mais et oui, vraiment ne pas avoir peur, surtout. La grande crainte, c'est qu'on est dans un pays dans lequel on a tellement exacerbé les valeurs comme ça du rationnel, du cartésianisme, du il faut croire, il faut voir, sinon qu'on se coupe de tout et après on est très malheureux.
Il y a aussi maintenant, on parle beaucoup du bas astral, enfin, moi on me parle souvent dans les musées où il y a des momies, etc., de faire attention à ça, mais je pense qu'on le sent, je pense comme tu dis, il faut suivre les indices, les indices des mouvements de foule, de comment les gens se comportent, parce qu'inconsciemment, on sait comment se comporter face à quelque chose, si l'énergie est bonne ou pas.
Oui, oui, et il arrive, c'est vrai, et ça m'est arrivé, mais c'était au musée du Louvre, d'être tout d'un coup devant une statue qui représentait un prêtre, je crois, enfin une momie, enfin je sais pas. C'était très bizarre, d'ailleurs, j'ai un peu oublié. Et là, je me suis dit, alerte rouge, il faut partir, c'est danger extrême. Et je n'ai jamais su qu'il en était. Et très souvent, ça, c'était il y a plus de 20 ans, c'était il y a 25 ans. Et souvent, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Et en fait, chaque fois, je me dis, non. Et je pense, en fait, tu vois, tout à l'heure, pour revenir au début de la conversation, que ça me revient maintenant. Tu sais, moi, la mémoire, c'est un peu compliqué, mais j'ai compris une dizaine d'années plus tard. Je pense que ça devait être un autre moi-même. Alors, ça fait un peu pompeux de dire j'existe au musée du Louvre, mais comme c'était une énergie très noire, je crois, voilà, je me rappelle maintenant, c'était un des prêtres, tu sais, il y avait les prêtres Akhenaton et les prêtres d'Amon, qui étaient comme le clergé en place, et ce sont eux, en fait, qui ont complètement... finalement empoisonné à Akhenaton, parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent avoir un rapport vertical à la spiritualité. Il ne voulait pas qu'ils soient indépendants, ce que était venu amener Akhenaton.
Lise a fait aussi pour nous.
C'est exactement la même chose. C'était certainement, ils se sont réincarnés dans les inquisiteurs, dans le clergé, bien sûr, et dans ceux qui ont coupé dans les textes sacrés, dans la Bible, etc. Et maintenant que je repense, c'est drôle parce que ce souvenir me revient en même temps que je pense, c'était un de ces prêtres-là que j'avais dû être, et je pense que j'avais dû vivre des expériences très très... Enfin, être vraiment dans le pouvoir, la toute-puissance, et faire des... être dans l'obscur, quoi. Voilà. Et quand on se retrouve face à face avec une expression de soi qui a été vraiment très négative, ça n'est pas agréable du tout. Et du coup, je n'y suis jamais retournée. Pourtant, souvent, je m'étais dit... Mais là, ça fait des années que je n'ai pas pensé à ça.
Qu'est-ce que tu peux nous dire en mot de la fin, en conclusion, sur de laisser jaillir en soi la source? Parce que tu parles aussi beaucoup d'auto-guérison dans ton livre, qu'on a ça au fond de soi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous éclairer sur notre chemin qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle?
Effectivement, nous avons, nous sommes porteurs de capacités d'auto-guérison, c'est sûr. Nous avons aussi, et encore pour l'instant et pour un grand nombre, besoin d'un peu d'accompagnement. Hein, ça, c'est tous, hein, mais les thérapeutes de la même manière. Hein, on va tous aussi, quand il y a un dossier qui s'ouvre, on va se faire aider tous autant que nous sommes. Mais l'idée, ça n'est pas, comme on peut l'entendre encore parfois, de dire « Ah non, 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 mais pas du tout, moi je suis pas fou, je vais pas aller voir ces gens-là. Mais... » Et puis de tout refermer et de fermer les volets comme ça sur sa blessure et de continuer à avancer et à progresser en emprisonnant un traumatisme ancien, une douleur ancienne par peur d'avoir mal dans le fait de... C'est comme enlever un pansement. Oui, ça fait mal, effectivement. Mais comme en dessous, on est en train de le soigner, de le guérir, après, il y a une cicatrice et après, on est débarrassé. Bon, excuse-moi de cette comparaison très, très classique, mais je trouve qu'elle reste toujours valable. Parce que, en fait, bien souvent, les gens refusent d'aller se faire aider par peur de ce qu'ils vont trouver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on porte en soi, et quand on refuse d'aller voir ce que c'est mais infiniment plus douloureux que le traumatisme lui-même. Parce que de toute façon, comme nous l'avons vécu, nous savons, nous connaissons notre histoire. On n'y est juste pas relié sur les plans conscients. Mais en nous, ça vibre, cette mémoire cellulaire crie, ça hurle. En nous, quelquefois, je mets la main pour la première fois, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, un patient qui vient, j'ai l'impression qu'il a comme des choses de porc-épic, des aiguilles de porc-épic qui sortent comme ça de son corps de souffrance, tu vois, ça vibre. Et nous, notre rôle, c'est justement d'apaiser, de tout refermer, de tout lisser, et que la blessure se soigne. Alors, je pense, c'est vrai que ça demande, surtout, comme on le disait tout à l'heure, que nous sommes porteurs de beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, de beaucoup de souffrances différentes qui s'agrègent comme ça les unes aux autres, qui s'interrelient et quelquefois depuis l'enfance, quelquefois depuis la gestation. Donc c'est vrai que ça peut être un long travail. Et ça, en ce qui me concerne, j'ai travaillé vraiment intensément sur moi sur une période d'un bon 10 ans. Et encore aujourd'hui, quand quelque chose se présente, j'y vais tout de suite. Maintenant, j'y vais avec plaisir, en me disant qu'est-ce que je vais découvrir, de quoi je vais me libérer, parce que derrière, il y a un allègement incroyable. Derrière, c'est la joie qui revient. Il n'y a plus la peur, il n'y a plus la culpabilité, par exemple, il n'y a plus la colère, il n'y a plus... tu vois, toutes ces choses lourdes, ces émotions lourdes, qu'on dit négatives, mais c'est vrai, c'est négatif parce que ça nous fait du mal, qu'on porte et qu'on traîne avec soi, il vaut beaucoup, beaucoup, mais vraiment infiniment mieux aller avoir un petit peu le courage. Mais pour moi, ça n'a jamais été du courage. Pour moi, c'est Enfin, c'est juste du bon sens, quoi. Je ne vais pas continuer à traîner ces trucs-là à perpétuité. Et j'entends beaucoup, encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre dans des conversations comme ça ou dans des gens qui ne sont pas tournés dans les dimensions que je... Enfin, ou dans l'univers qui est le mien. Tu sais, dans certains dîners ou dans certaines... Des gens qui en sont encore à refuser d'aller voir un psy. Un psychothérapeute ou un psychologue, on dit « Ah mais non, mais moi je suis pas fou, pas du tout, non, non. » Mais c'est se tuer à petit feu, quoi, de ne pas se donner la possibilité de se libérer.
D'aller vivre toute cette vie qui est immense, cette immensité, cet infini, et cet infini dans l'amour, surtout.
Oui, cet infini de vivre cet infini dans l'amour, absolument. Et moi, j'aimerais bien ajouter, parce que c'est vraiment corrélé, c'est dans l'amour et dans la joie. Parce que quand on est en paix intérieurement, l'amour est là, parce que le cœur s'ouvre, voilà. Mais qu'est-ce qui vient derrière? Et ça, c'est le cadeau, mais magnifique, c'est qu'on est dans la joie de vivre. Et on redevient comme les petits enfants. Et je fais ça parce que c'est comme si je voyais ma petite fille, comme ça, qui gambade et qui sont complètement dans l'innocence du cœur, dans l'amour, parce qu'ils viennent, ils sont confiants, ils viennent avec tout le monde. Mais les adultes, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas redevenir ce qu'on a été dès lors qu'on se libère de tout ça. C'est vraiment la joie, le cadeau. Ce qu'on pourrait dire pour vraiment inciter les gens à faire un travail sur eux, c'est oui, c'est compliqué, mais c'est beaucoup moins douloureux que ce qu'on redoute. Et ensuite, derrière, il y a un cadeau magnifique qui est oui, la reliance avec, un, les plans de l'invisible, ça c'est le super cadeau, mais ici, en bas, c'est d'être bien dans ses baskets.
Bah, merci pour le mot de la fin, Agnès. Merci beaucoup, en tout cas.
Mais je t'en prie, merci à toi.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.